RCF.
C'est d'un très beau roman, profond, vibrant, dont nous avons parlé lors de la précédente émission avec mon invité, Gérard Vincent. Ce roman, Mort d'un chartreux, est un journal aussi qui raconte les quelques derniers mois de la vie d'un moine, Pierre d'Ambleteuse, qui consigne au jour le jour, ou presque au jour le jour, ses derniers mois de sa vie. Bonjour Gérard Vincent.
Bonjour Monserratin.
Lors de la précédente émission, nous parlions de la forme que vous aviez choisie pour ce roman, pour dire cette attente de la mort, mais peut-être aussi cette attente de Dieu, cette attente de la lumière, qui est celle de Pierre d'Ambleteuse. Car il y a les deux dans votre roman. Je le dis pour nos auditeurs qui seraient peut-être effrayés par le titre « Mort d'un chartreux ». Attente de Dieu, attente de la mort, mais aussi attente de la lumière.
Oui, alors, attente de Dieu, c'est aussi le titre d'un livre de Simone Veil qui fait partie des grandes figures comme Christiane Singer, etc., qui sont évoquées par Pierre d'Ambleteuse. Donc attente de Dieu, oui, la lumière, il l'a déjà expérimentée dans sa vie de moine, mais là, bon... Elle est comme une injonction, comme une urgence. Il est devenu moine aussi parce que il avait été frappé par la beauté de ce qu'on appelle l'échelle, la règle des Chartreux, l'échelle cartusienne, qui est la suivante: lecture, prière, méditation, contemplation. La graduation qui va vers Dieu à partir de la lecture. Donc lui, lecteur des Écritures saintes, des prophètes, des psaumes et aussi des poètes, c'est crucial dans sa vie. Et bon, il va continuer sur son dernier chemin, ce parcours.
Ce parcours, c'est aussi, vous venez de prononcer le mot, Gérard Vincent, un parcours de prière, un parcours de célébration, un parcours de louange. Et ce qui me frappe, une fois encore, à la lecture du texte, c'est la célébration de la beauté du monde, la louange de la création. Alors, celle de Pierre d'Ambleteuse, mais que vous faites tellement passer par la forme quasi lyrique que vous donnez aux impressions, au jour le jour, de Pierre d'Ambleteuse.
Oui, Il y a aussi ce mot célèbre de Dostoïevski, la beauté sauvera le monde. Donc c'est quelque chose dont il est persuadé. Lui, on y reviendra peut-être, dans la très grave crise qu'il a connue à 24 ans. Et quand il est sorti de manière pour lui surnaturelle, c'est là qu'il a pour la première fois fait l'expérience de la beauté du monde. Là où dans le parc de la clinique où il avait ses hallucinations, il voyait à la place des bancs, il voyait des morts sortir des tombeaux. Il était vraiment dans un état d'une gravité totale. Dès qu'il en est sorti à partir de ces deux mots qu'on lui demande de prononcer, il va deux ou trois jours suivants se retrouver dans le parc face à un pommier en fleurs. Et là, ce pommier va lui apparaître comme une théophanie, c'est-à-dire comme vraiment l'essence de la création en lumière, en beauté, en lumière. Et à partir de cette expérience qu'il fait à 24 ans, il a cette volonté, ce désir de consacrer sa vie à la contemplation, à la beauté du terrestre. Et la beauté du terrestre est quelque chose qui est parfois pas suffisamment mis en avant dans le catholicisme. Moi, j'ai retrouvé des choses beaucoup plus fortes dans l'orthodoxie.
Alors, justement, l'orthodoxie, vous parlez aussi d'autres mystiques, Gérard Vincent. Certes, votre personnage est d'un chartreux, mais nous dépassons de beaucoup le cercle chrétien, catholique, car votre récit est également innervé par la lecture de penseurs, de philosophes, de grands mystiques, de l'islam notamment, voire du Tao.
C'est vrai, autour de 30-35 ans, j'ai lu beaucoup de choses sur le soufisme, hein, qui m'a ébloui. Les soufis, les grands soufis sont des êtres qui ont une proximité du Dieu unique extraordinaire, hein, et ça peut donner à réfléchir à ceux qui ont une vue caricaturale de l'islam, d'aller voir du côté des soufis. Le judaïsme a été important parce que j'ai eu la chance d'être l'ami d'un grand poète juif qui s'appelle Claude Vigée, à qui j'avais envoyé le manuscrit de mon premier livre. Il était prof à Jérusalem. Il m'a envoyé une lettre extraordinaire et bon, j'ai pas pu. Il voulait que je vienne, mais je pouvais pas. Je travaillais, les enfants, je pouvais pas aller à Jérusalem. Mais je l'ai vu plusieurs fois à Paris. Il est mort à 100 ans, à presque 100 ans, il y a quelques mois.
Quelques mois, oui.
Donc le judaïsme m'a beaucoup intéressé. Et puis, disons que dans mes trois pléiades de chevet, disons les plus usées, il y a Rimbaud bien sûr, il y a Hölderlin, mais il y a philosophe taoïste. Et voilà, parce que je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup d'enseignements à tirer de cette. Alors là, on n'est pas forcément dans le monde proprement religieux, mais on est très loin dans l'humain, dans la simplicité, dans le
dépouillement
et dans le consentement aussi à la vie et puis à la simplicité, et le dépouillement, oui, tout à fait. Donc
oui. Ce Tao, ce chemin, hein,
oui,
je
c'est
crois,
le chemin, oui,
c'est le
sûr.
Chemin. Qu'est-ce que vous lui voyez de commun? Ma question est peut-être hétérodoxe, avec le chemin de vie et de mort de Pierre d'Ambleteuse. Il y a bien un chemin aussi,
oui,
pour lui, où il se dépouille de tant de choses.
C'est difficile à dire, mais Pierre d'Ambleteuse, lisant un petit peu les taoïstes, était frappé par leur désir d'aller se mettre dans des lieux de nature, des lieux de solitude et de silence. Chose qui n'est pas forcément aisée de faire dans nos contrées. On peut toujours devenir ermite quelque part. Mais lui, tout de suite, il a relié ses extases de lecture à ce lieu qu'il connaissait pour habiter pas très loin, qu'il avait déjà visité. Dès qu'il a pensé à un lieu, à un monastère, ça a été tout de suite, dès ses études à Lyon, ça a été la Chartreuse. Il a mûri pendant plusieurs années cette décision de rentrer à la Grande Chartreuse.
Est-ce que vous pensez, Gérard Vincent, que certains lieux sont des lieux qui sont porteurs d'une force que je ne nommerai pas, tant elle nous est mystérieuse?
Oui, ça, je suis très convaincu de ça, parce que je suis un grand promeneur. Il m'est arrivé d'être... J'ai un ami qui sent physiquement ce qu'on appelle la géographie sacrée, les lieux. Il m'a dit par exemple qu'à Saint-Antoine-l'Abbaye, il y avait des forces telluriques exceptionnelles et que lui, il les sentait traverser le corps. Bon, moi, j'ai pas ce don, mais par contre, j'ai fait l'expérience en 2000. Je suis allé un petit peu par hasard, parce que c'est un ami qui me l'avait conseillé, sur l'île de Patmos. Et là, j'ai senti quelque chose d'immense, de très très fort. Une des plus grandes émotions de ma vie a été à Patmos, non loin de ce qu'on considère comme la grotte de Saint-Jean. Mais c'était en juin, il y avait très peu de monde et j'ai eu, oui, une expérience, on pourrait, bon, mystique, c'est peut-être un grand mot, mais enfin, un soulèvement de tout le corps dans un lieu, et un lieu, c'est Hopkins aussi qui a des choses magnifiques, hein, on est entouré de grâce, d'air comme de grâce, enfin, bon, lui, il a une vénération pour la Vierge, qui est très belle. Et oui, pour moi, les lieux, les visages, les paysages, ça fait partie d'un chemin essentiel, d'un chemin qu'on poursuit jusqu'à sa mort. Et je crois que c'est ça qui est beau, parce que ce que Jung appelle l'individuation, en fait, c'est ça, c'est quelque chose qui ne se termine pas. Je pense que si tous les êtres avaient la conscience de ce qu'est un vrai chemin de vie et d'individuation, ils seraient heureux, parce que on sait que quelles que soient les circonstances et parfois les naufrages de la vieillesse, on peut mener ce chemin jusqu'à son dernier souffle.
Jusqu'à ce moment où
jusqu'à la fin, jusque maintenant et à l'heure de notre mort. C'est très beau, cette fin du de l'Ave Maria, parce que en fait, cette fin du Jésus-Marie donne le vrai sens de la vie. toujours relier le maintenant et l'heure de la mort, parce que c'est la même chose.
Dialogue, Monserrata Vidal.
C'est Preissner encore qui nous accompagnait et qui nous accompagne tout au long de ces deux émissions consacrées à ce beau roman, Mort d'un chartreux. Gérard Vincent, nous parlions il y a quelques instants de la beauté de la création, de la beauté sacrée de certains lieux. Très bref, un petit passage du 17 novembre 2006 qui évoque ce paysage. La plénitude d'un paysage de montagne vient peut-être de la magnifique évidence de l'harmonie des trois règnes. Le minéral, altier et incontournable, le végétal qui entoure et adoucit les formidables masses rocheuses, et enfin le règne minéral qui introduit le mouvement et le chant. Beauté et plénitude.
Le règne animal.
J'ai dit le règne animal. Et qu'est-ce que j'ai dit ?
Minéral.
Oh, alors, le règne animal. Merci pour cette correction, Gérard Vincent. Voilà quelques lignes pour définir, non pas la beauté simplement esthétique, mais une beauté, même si le mot est galvaudé, une beauté d'ordre spirituel.
Oui, pour moi, la beauté, mon expérience de vie m'a toujours fait relier la beauté du terrestre, la beauté de la création au spirituel, parce que pour moi, je suis intimement convaincu que l'origine de cette beauté n'est pas... C'est nous, humains, qui la ressentons, mais elle vient de Dieu, elle vient de la création, elle vient du Créateur. Donc, comment dissocier ces intenses sensations de beauté qu'on peut recevoir par toutes les fibres de son corps, comment peut-on la dissocier ? Alors peut-être que des gens qui ne sont pas du tout croyants peuvent aussi, je pense, avoir cette expérience de la beauté. Ça, je le nie pas du tout. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça. C'est relié à la grande source mystérieuse mais réelle.
Alors, il y a la beauté, il y a le sacré, il y a l'élévation, mais ici. Ou là, nous trouvons dans votre roman quelques mots sévères à l'encontre de notre civilisation, à l'encontre de nos sociétés qui semblent déracinées, avoir oublié à la fois le sens du sacré, le sens du divin, et puis peut-être avoir oublié le sens de la parole du Christ, Gérard Vincent.
Oui, ben on ne peut que constater que, enfin, les plus pessimistes nous mettent dans l'annonce d'un désastre probable. L'écologie, je pense que c'est un vrai problème. Les océans, les dérèglements, il y a quelque chose de démiurgique dans l'activité humaine qui abîme la création et qui la met en péril, c'est certain. Donc ce bien que loin des des grands tourments de la vie terrestre, ben le moine en a conscience et ça fait partie de ses prières justement. Hein, puisqu'il ne faut pas oublier que l'activité principale d'un moine, c'est prier, et pas seulement prier pour lui, c'est prier pour les êtres, pour ceux qui souffrent et pour le monde.
Vous disiez tout à l'heure, il est relié aux autres.
Ça, j'ai quand même rencontré un certain nombre de religieux, et c'est évident que ces gens-là ne sont pas enfermés dans leur petit monde. Ils sont ouverts, ils sont reliés, ils sont en contact avec beaucoup de monde, ils savent ce qui se passe aussi dans le monde, pas d'une manière télévision débile et internet, mais ils sont reliés, c'est sûr.
Donc cette période que nous vivons, mais qui parvient également à ces chartreux dans leur solitude, dans leur isolement, cette période de doute, de démonétisation de toute parole, de scepticisme, voire de cynisme. Ce roman, bien qu'il ne soit pas un roman religieux, hein, vous me corrigerez si je me trompe.
Non, bien sûr.
Ce roman essaye justement d'apporter une autre parole, avec une minuscule et une majuscule.
Précisez un petit peu.
Alors, il y a des propos, par exemple, sur la sainteté. Il y a des propos sur l'origine. Il y a des propos sur, justement, l'amour, mais avec une majuscule. Alors, on pourrait dire, bien, c'est un roman qui est circonscrit à un champ religieux. Non, il va bien au-delà, comme nous le disions tout à l'heure, à propos des autres mystiques qui l'innervent.
Oui, vous avez raison. Ça serait réducteur d'en faire un roman religieux. Les thèmes de ce roman, bon, c'est des grands thèmes de l'homme. C'est quoi ? C'est la vie, c'est la mort, c'est l'amour et c'est le temps. Le temps, c'est quelque chose de fondamental. Hein. Bon, il y a le grand surréaliste André Breton qui disait je cherche l'or du temps. Un moine aussi, d'une certaine façon, il cherche l'or du temps. C'est pas comme un alchimiste qui va transmuer le plomb en or, mais il va transmuer le plomb de sa pesanteur humaine en or de la spiritualité et de la contemplation. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Bon, je reviens à Simone Veil, qui est pour moi quelqu'un d'immense dans la pensée. C'est ce magnifique livre qui a été dont les notes ont été recueillies par Gustave Thibon, qui s'appelle La pesanteur et la grâce, qui est quelqu'un qui n'a jamais lu Simone Veil. Il faut commencer par La pesanteur et la grâce, parce que là, il y a la force immense, et cette femme qui est morte à, je sais pas, 35, 36 ans.
34 ans, oui.
34 ans, donc, bon, ça fait partie, Simone Veil, des grandes, au moins autant que les poètes, hein, pour Pierre d'Ambleteuse, ça c'est certain.
Simone Veil, ces mystiques dont vous nous avez parlé, il y en a un autre dont j'aimerais que vous nous disiez quelque chose, Gérard Vincent, Maître Eckhart.
Ah, Maître Eckhart.
Il est présent.
Alors, Maître Eckhart,
peut-être un peu moins que d'autres qui apparaissent.
Oui, Maître Eckhart, en son temps, ça a été presque un hérétique. Enfin, oui. il a eu beaucoup de problèmes avec les grandes autorités religieuses de l'époque. Mais Maître Eckhart, bon, là, il faut reconnaître que Maître Eckhart, c'est pas une lecture facile, mais c'est d'une profondeur inouïe. Et en fait, par rapport à ce qu'il a vécu, à ce qui lui est arrivé dans son délire mystique et religieux à 24 ans, après il a compris qu'il y avait des choses qui étaient vraiment, il a compris des choses de cette grave délire, il l'a compris en lisant beaucoup plus tardivement, parce qu'à l'époque il ne connaissait pas, en lisant Maître Eckhart. Il a beaucoup lu Maître Eckhart pendant ces années de monastère, et c'était une lecture qui était partagée par d'autres moines. Je pense que à tous ceux qui ont une sorte de portée mystique dans leur vie, Maître Eckhart, c'est quelqu'un de très grand et qui va bien au-delà de la religion chrétienne.
Tout comme Jacob Boehme, que vous citez également.
Oui, il faut, je sais plus la phrase. Il
faut mourir, il faut mourir. Nos lecteurs la liront.
Il faut mourir avant de mourir. Enfin bon, oui, il y a une phrase de Jacob. Alors Jacob Boehme, je connais moins, mais fait partie de moi entre 25 et 35 ans, j'ai énormément lu, et dans le domaine de l'islam, par exemple, j'ai été ébloui par Henri Corbin. Donc c'est Henri Corbin qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier dans le monde du soufisme. Il y a un livre qui s'appelle « L'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi », qui est un livre immense. Et voilà. Et plus j'ai avancé dans ces voies, plus je me disais, c'est la même voie. C'est-à-dire que tous les grands mystiques sont dans un rapport tellement proche à Dieu qu'ils peuvent se parler, même s'ils sont dans des religions différentes.
Et pourtant, donc, ça n'est pas un syncrétisme que vous proposez.
Non, c'est pas un syncrétisme. Bon, c'est pas forcément l'union transcendante des religions dont parle Guénon, des gens comme ça. Mais,
sont des voies parallèles.
Moi, à partir de mon expérience, que j'attribue à mon moine, je me suis trouvé sur un chemin infini. Et ce chemin, il était bouleversant parce que mais je lisais en arborescence et mes lectures amenaient d'autres, mais qui étaient très proches finalement et qui se répondaient. Et ça, c'est une expérience dans le chemin de vie, dans l'individuation qui est remarquable et j'essaye de poursuivre aujourd'hui, même si j'ai plus forcément le même enthousiasme. Mais enfin bon, la foi est toujours là en tout cas.
Alors, la foi est toujours là et peut-être a-t-il fallu à Pierre d'Ambleteuse traverser cette épreuve dont nous avons parlé de façon allusive jusqu'à présent, cette épreuve de l'esprit qui le plonge pendant des semaines dans ce que d'aucuns appelleraient la folie pour aller vite, d'autres la schizophrénie, d'autres la psychose. Revenons, Gérard Vincent, à ces événements de 1974, que pour ma part, vous me direz là aussi si je me trompe, j'interprète comme une épreuve à surmonter, une sorte de crise spirituelle, une plongée en enfer, le mot vous l'utilisez. Parlez-nous de cet épisode.
Alors c'est sûr que ça, j'ai pu le décrire d'une manière assez précise dans le roman, parce que c'est quelque chose qui, moi, m'est arrivé, que j'avais déjà raconté dans un livre sorti il y a très longtemps à l'âge d'homme, appelé L'incandescence. Pour moi, ça reste aujourd'hui, je mets en 74, moi c'est en 78, ça reste l'événement central de ma vie, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui était issu d'une famille chrétienne, pratiquante, moi j'ai des parents magnifiques, j'ai eu 15 ans 68. À 68, comme beaucoup de mes amis, j'ai tout bazardé. Quoi, il n'était plus question d'aller à la messe, etc. Bon, enfin, bref. Non, j'étais pas devenu athée. Hein, disons agnostique. Enfin, bon, j'étais passé ailleurs et j'étais replongé complètement dans cette foi, on peut dire, hein, dans cette foi brûlante, par une épreuve qui m'est tombée dessus d'une manière tout à fait aujourd'hui tout à fait mystérieuse. Il n'y avait rien qui pouvait avant. Ou le jour où j'ai sombré, à partir d'une phrase très précise de l'Épître aux Hébreux, tu es prêtre pour l'éternité. Enfin, le personnage de Melchisédek est apparu comme une figure à la fois magnifique et terrifiante. Et après, ça s'est enchaîné, les hallucinations, les visions, les voix, les insultes. Et aussi, parfois, les chœurs angéliques. Et puis, la vision, j'en ai le bon souvenir, d'une cortège de personnes disparues. Alors, certaines de ma famille que je pouvais identifier, mais d'autres non, et qui m'enjoignaient de tenir bon, de ne pas sombrer. Et donc ça, oui, ça, je pense que ça c'est quelque chose qui est... Les deux choses, finalement, bon, je ne suis pas moine et j'aurais été incapable d'être moine, mais les deux choses autobiographiques dans ce roman, c'est cette expérience très grave et la passion de la poésie. Hein, voilà, ça c'est quelque chose qui reste important dans le roman et qui peut-être en a généré la genèse, la matrice, c'est ça. C'est...
Il y a une belle figure à ce moment-là dans cet épisode, c'est la figure maternelle, oui, qui est celle qui console, celle qui est présente, celle qui n'abandonne jamais son fils dans la souffrance.
Oui, ça c'est quelque chose que... C'est très surprenant parce que quand je suis sorti de cette expérience qui a duré à peu près 3 mois... où j'ai subi les électrochocs et tout ça, enfin, c'était très grave et les psychiatres ne savaient plus, dans la clinique privée où j'étais près de Lille, ne savaient plus quoi faire de moi et notamment je refuse absolument de prendre des médicaments et ma mère héroïquement a obtenu ce qu'elle aurait jamais obtenu dans une clinique publique, dans un hôpital public, elle a obtenu de pouvoir mettre un lit de camp dans ma chambre et de passer jour et nuit et de me donner mes médicaments. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que je me souviens de plein de choses, mais cela, je l'avais complètement oublié. et je l'ai su par elle. Mais j'ai complètement occulté cette présence de ma mère, qui était là peut-être comme une sorte de présence angélique et mystérieuse. Mais moi, j'en ai aucun souvenir. Mais elle était là, elle a été là tout le temps. Et quand un de mes frères s'est marié, elle est partie 3 jours. Et c'est la maman de qui était quelqu'un qui est morte il n'y a pas longtemps, que j'aimais beaucoup, qui était donc ma belle-mère, qui a pris le relais pendant 3 jours.
Des figures de consolation.
Oui, 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 c'est-à-dire il y a beaucoup de, je dois beaucoup à des présences féminines, ces femmes, des femmes plus jeunes, etc., des amis qui sont venus, qui se relayaient et qui étaient là face au désastre. Hein, et les psychiatres étaient pas du tout optimistes, hein, sur mon sort. Et voilà, donc, mais c'est une épreuve, une ordalie.
Voilà, une ordalie. Vous, ouais, utilisez, ouais, le mot d'ailleurs.
Traversée du mur de flammes. Ouais.
Nous sommes presque au terme de cette émission, Gérard Vincent, de ces souffrances, les souffrances du corps terrible que vit Pierre d'Ambleteuse, les souffrances de la psyché que vit Pierre d'Ambleteuse, mais que vous-même, vous venez de nous le dire, avez vécu. De ces souffrances, quel sens pouvons-nous tirer? Y a-t-il un sens ou n'y a-t-il pas de sens?
Pour moi, il y en a un, parce que, disons, j'ai pu mesurer très vite le sens dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que ma vie en a été bouleversée. Alors, des sceptiques pourraient dire que c'est de l'auto-suggestion, de l'auto-initiation, mais pour moi, non. Et puis, j'en ai eu beaucoup de signes après. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées dans ma vie qui m'ont montré que ce chemin, bah, il fallait pas l'abandonner, il fallait le suivre. Hein. Je cite aussi un grand mystique, un grand saint de Séraphin de Sarov, hein, dans le monde orthodoxe, qui dit le Christ lui dit garde ton esprit en enfer et ne désespère pas. Et ça, oui, pour moi, c'est une phrase qui m'a parlé, parce que finalement, mon esprit a été en enfer des semaines et des semaines, mais je pense qu'au fond de moi-même, je n'ai pas désespéré, même si à un moment, j'ai cru que c'était la fin, parce que la souffrance était telle, et puis le corps était tellement atteint, perdre 20 kilos en quelques semaines, etc., parce que plus de nourriture, plus rien. Bon, oui, je pense que... Pour moi, il y a eu un secours extraordinaire et oui, surnaturel. Mais bon, c'est vrai qu'on peut pas dire ça à tout le monde parce que d'abord, ça peut paraître prétentieux. D'autre part, ça peut paraître complètement incongru ou alors un relief du délire initial.
Ou une naïveté.
Une naïveté, oui, voilà. Mais bon, moi, je sais que mon chemin de vie, il a repris complètement une voie nouvelle à partir de ce moment-là. Et l'homme qui était dans le délire et dans la souffrance, un an et demi après, donnait naissance à 2 petites jumelles magnifiques. Bon, qui aurait pu le penser dans l'équipe des psychiatres qui ne savaient pas s'ils allaient pouvoir me garder, quoi. Bon.
Votre roman est donc un roman d'espérance.
Oui, j'espère, oui.
Le 11 juillet 2007, c'est presque la toute fin pour votre personnage. Je voudrais lire ce qu'il consigne ce jour-là. Est-ce mon dernier jour ? Je l'aimerais. J'ai demandé à 2 frères d'installer une manière de lit dans le jardinet de ma cellule, au seuil de celle-ci. Je voulais regarder une dernière fois le ciel, les nuages, un pan de montagne, la neige présente au sommet. Un oiseau chantait, le temps était très doux. Nous sommes restés tous les 3 un moment en silence. Je savais que la libération était là, toute proche, étant désiré. Voilà les presque derniers mots de ce beau roman « Mort d'un chartreux » publié aux éditions du Rocher. Merci beaucoup Gérard Vincent.
Merci Montserrat.